L'instant addicto. Bonjour à toutes et à tous, Sophie Deloume pour l'instant addicto. J'ai le plaisir de recevoir Nicolas Palierne avec qui on termine notre cycle sur l'alcool, hein, après une introduction des pratiques sociologiques, après la question du genre au féminin et l'alcool, la question du genre du masculin et l'alcool, on termine avec les jeunes. Au niveau des jeunes, Nicolas Palierne, hein, on va pas rentrer spécifiquement dans tous les chiffres, hein, puisqu'on boit un peu moins, mais on boit différemment. Et au niveau des jeunes, je voulais voir avec vous la première vraie alcoolisation en tant que sociologue, comment vous pouvez analyser dans votre regard au niveau de cette initiation et du premier verre en alcoologie chez nos jeunes.
Bonjour Sophie. Alors, on avait mené une enquête à l'Université de Poitiers avec d'autres collègues sociologues, avec Ludovic Gossot, Loïc Leminor, Jean-Pierre Escriva. Donc, on avait interrogé deux types de populations, à la fois les étudiants inscrits à l'université et puis ensuite d'autres jeunes, un peu plus jeunes, ceux qui sont inscrits en lycée ou en CFA ou en MFR. Et donc, ce qu'on avait constaté, c'est que le tout premier verre objectif, on va dire, s'inscrivait plutôt dans un contexte familial. Donc, c'était soit une initiation à l'alcool, donc là encore plutôt le vin, plutôt par des figures masculines où on essayait d'introduire le jeune dans cette culture du vin. Et on avait un contraste où le vrai premier verre, donc là plutôt dans une perspective subjective du jeune, c'était plutôt le verre consommé avec les pères, P-I-R-S ou P-I-R-E-S, c'est-à-dire plutôt un usage qui va différer, c'est pas tellement l'introduction dans la culture du vin, mais plutôt une introduction dans la culture de l'ivresse, si on peut dire. Je repense aux travaux de Véronique Taumont Grappe, où c'est plutôt vraiment la recherche de l'effet psychotrope plutôt que l'aspect organoleptique, c'est-à-dire le goût, les qualités du vin, le plaisir qu'on va prendre. C'est vraiment la recherche plutôt des qualités psychotropiques du produit qui va être recherché lorsque l'on consomme entre les jeunes amis.
Oui, donc il y a plutôt une recherche d'ivresse. Ce serait intéressant pour vous de voir au niveau des chiffres en sociologie du comportement des jeunes que c'est plutôt le produit psychoactif qui est recherché. L'œnologie, c'est quelque chose qui vient plus tard. Hein, vous l'avez dit la semaine dernière par rapport à un public dit cadre, où là, il y a plus le goût, l'œnologie qui est recherchée. Et au niveau des jeunes, c'est une recherche plus de l'ivresse.
Bah, c'est pas tellement pour l'effet, le plaisir gustatif du produit en lui-même. En tout cas, alors là, il faudrait à chaque fois spécifier quel type de jeune on a. D'une part, il y a une pluralité dans le rapport à l'alcool. Tous les jeunes ne boivent pas nécessairement de l'alcool. Tous les jeunes ne recherchent pas forcément une ivresse. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que dans ce rapport, disons, juvénile, c'est plutôt l'effet psychotrope, c'est-à-dire c'est plutôt dans l'aspect festif que l'alcool va être consommé plutôt que de façon, on va entre guillemets, adulte. C'est pas la bouteille de vin au moment du repas. C'est pas ça la pratique majoritaire chez les jeunes. C'est plutôt l'alcool consommé au moment festif.
Et on s'est rendu compte ces dernières années. Est-ce que ça a changé au niveau générationnel de cette consommation d'alcool et cette quête d'ivresse? On en parlera. On parle beaucoup des API, hein, des consommations importantes. C'est encore différent du fameux bridge drinking venu des pays anglo-saxons. Et on se rend compte en fonction de quels jeunes, comme vous disiez à juste titre, on discute, des étudiants, ça va partir du jeudi soir. Pour un jeune salarié, ça va être différent. Donc, il y a beaucoup moins le vin. Le vin apparaît beaucoup moins. Ça a beaucoup changé ces 10 dernières années. Vous pouvez nous en dire un peu plus, Nicolas Palierne.
Donc, j'insiste, il faut d'une part garder en soi que ce qu'on va appeler la jeunesse, en fait, est pluriel. Donc, on a quand même différents types de jeunes, selon qu'ils soient étudiants, lycéens ou salariés ou apprentis. Donc, on va avoir des rapports qui vont différencier par rapport à ça. Si on essaye d'adopter en tout cas une échelle, disons, socio historique sur plusieurs décennies, on va avoir des grands changements dans le rapport à l'alcool en France. On a effectivement plutôt ce que je disais, les jeunes vont déserter entre guillemets cette culture du vin. Ils n'adoptent plus ce qu'il y avait dans les années 70, voire même au tout début des années 80, une consommation quotidienne de vin encore associée au repas. Et ce rapport-là tend à décroître en France, y compris pour les adultes. Donc globalement, les jeunes d'aujourd'hui boivent beaucoup moins quotidiennement qu'ils ne le buvaient il y a encore quelques décennies. Ils boivent beaucoup moins de vin qu'ils ne le buvaient il y a encore quelques décennies, ce qui fait qu'ils vont plutôt s'orienter vers les alcools distillés, vers la bière aujourd'hui, sur des temporalités qui vont, là encore je le disais, plutôt se centrer sur les fins de semaine, sur les vacances, dans des contextes festifs, beaucoup, beaucoup moins que le rapport qu'on appelle la commensalité, donc l'idée de partager un repas qui correspond plutôt à notre schéma traditionnel en France de consommer là encore de l'alcool, notamment le vin, qui va plutôt se retrouver sur un âge plus avancé, et notamment dans les générations plus âgées en France.
C'est intéressant, c'est ce que vous me disiez au niveau intergénérationnel, les consommations ont complètement été modifiées ces dernières décennies.
Oui, c'est aussi une autre transformation qualitative importante, c'est qu'auparavant on buvait de façon intergénérationnelle, donc on buvait sur les fêtes familiales, on buvait dans les fêtes de village, et donc on avait un mélange des générations sur le moment de s'alcooliser, alors qu'aujourd'hui les jeunes ont plutôt tendance à boire entre soi, ce qui peut aussi nourrir tout un ensemble de craintes, puisque justement justement, on ne peut plus vraiment porter un regard sur ce qu'ils font. Et donc, on nourrit justement les craintes par rapport à leur alcoolisation.
On va faire une pause musicale.
J'ai choisi La mer à boire par Java.
Ça y est, ça me reprend, ça va venir, je le sens. Y'a du sable dans mon sang, je suis raide comme un pic, ça s'effrite là-dedans. Ça me pèse sur la colonne, faut que je trouve le sérum avant que je transforme mon corps en uniforme. Tout est sec, je suis à cran. Faut que je trouve une enseigne de la chaleur humaine avant de glacer mes veines, que je fisse ces pasternes aussi tristes que la mienne. Maintenant, ça commence à sentir le sapin. Y'a le feu qui s'éteint, faut que je change de face, que je toise la fosse, que je bombe le torse, que je chiale comme un gosse dans les seins d'une grosse.
Les yeux qui s'éteignent, le cerveau s'égrène, la colle dans les veines, ça calme ma veine.
Serre-moi un cœur de l'armée du rouge, un refrain à boire.
Les yeux qui s'éteignent, le cerveau s'égrène, la colle dans les veines, ça calme ma veine.
Donne-moi un gospel de bouge, une chanson de comptoir.
Les yeux qui s'éteignent, le cerveau s'égrène, la colle dans les veines, ça calme ma veine.
Serre-moi une rengaine de baleinier, le hook, le crochet.
Les yeux qui s'éteignent, le cerveau s'égrène, la colle dans mes veines, ça calme ma peine.
Remplis mon verre et arrête de parler. J'accroche ma peine au porte-bateau, embarque sur l'oubli. Eh oui, je laisse au vestiaire ma dignité. Je vais voguer sur mon flot, seul dans l'arène de la nuit, quitte à être demain la ruine de l'année. M'arrimer aux zinc pour siffler mon air, j'alpague le bar du poignet de fer, larguer les marques qui se soudent au calcaire. J'ai besoin d'un mousse pour quitter Picon. Ma tasse, c'est ma teuf, ma tasse, mon typhon. C'est ma tournée, sortez les sous-caisses, cale les fûts dans les basses, branche des jacks sous tes fesses.
Les yeux qui s'éteignent, le cerveau s'égrène, la colle dans mes veines, ça calme ma peine.
Serre-moi un cœur de l'armée du rouge, un refrain à boire.
Les yeux qui s'éteignent, le cerveau s'égrène, la colle dans mes veines, ça calme ma peine.
Donne-moi un gospel de bouge, une chanson de comptoir.
Les yeux qui s'éteignent, le cerveau s'égrène, la colle dans les veines, ça calme ma peine.
Serre-moi une rengaine de baleinier, le hook, le crochet.
Les yeux qui s'éteignent, le cerveau s'égrène, la colle dans mes veines, ça calme ma peine.
Remplis mon verre et arrête de parler. Bateau est ivre, on se tient par la main. Le radeau de la méduse chante comme deux vieux copains. J'ai soif de houle, de tempête pour mes intestins. Et plus rien ne m'arrêtera, plus rien. L'équipage saoulé desserre la ceinture, prêt à étriper le mutin qui imposera la fermeture. Donne-nous encore un air qui tâche, un air vain, une mélodie poisseuse de marin. On va passer les 30 rougissants haut la main. Le monde sombre nous enviera ce refrain.
Les yeux qui s'éteignent, le cerveau s'égrène, la colle dans mes veines, ça calme ma peine.
Serre-moi un cœur de l'armée du rouge, un refrain à boire.
Les yeux qui s'éteignent, le cerveau s'égrène, la colle dans mes veines, ça calme ma peine.
Donne-moi un gospel.
Donc Nicolas Palerne, par rapport à vos travaux de thèse de l'alcoolologie avec l'université de Poitiers, on est sur notre dernière mission par rapport à l'alcool et les jeunes. On se rend compte, ça a été modifié hein, au niveau, vous nous le disiez juste avant la pause musicale, au niveau intergénérationnel, la question du boire, de l'alcool est différente. C'est intéressant de voir au niveau, on était sur les questions de genre précédemment, au niveau des filles et des garçons. Est-ce qu'à votre avis, votre regard de sociologue, quel regard vous avez ?
Alors, si on s'en tient plutôt aux jeunes générations, j'avais tiré à grands traits dans les émissions précédentes. On a une meilleure accès, disons, ou en tout cas une moins forte stigmatisation pour les jeunes filles tant qu'elles ne sont pas mères. Ou effectivement, on a des déclarations d'ivresse qui sont plus importantes que dans les générations précédentes. Là encore, c'est toujours la difficulté, hein, c'est que globalement les jeunes boivent beaucoup moins sur le plan quotidien. Donc on a une meilleure visibilité de leurs ivresses. Et les jeunes filles, notamment étudiantes, tendent à déclarer davantage de rapports à l'ivresse, donc ce qu'on va appeler les accusations ponctuelles importantes, ce que en tout cas ce que l'OFD d'été enregistre sous cette appellation, plutôt chez les étudiantes comparativement aux autres jeunes filles, notamment les jeunes filles qui peuvent travailler. Chez les hommes, on va avoir chez les étudiants un rapport à l'ivresse qui va pas forcément être plus fort que par rapport à ceux qui sont salariés, mais à l'inverse, les salariés vont se démarquer parce qu'ils ont des alcoolisations plus fréquentes sur le plan de la semaine que ne l'ont les étudiants.
Et au niveau du brijacking et des consommations importantes, vous en pensez quoi dans votre regard de sociologue ?
Sauf erreur à vérifier, mais il me semble que sur les alcoolisations ponctuelles importantes, on est à entre 5 et 6 alcoolisations, c'est-à-dire unité barre, hein, c'est 10 grammes d'alcool dans le verre, sur une occasion. L'occasion, elle n'est pas forcément délimitée dans le temps, alors que sur les définitions du binge drinking, on va avoir un rapport au temps qui va être délimité, normalement c'est autour de 2 heures, donc à peu près avec ces mêmes quantités d'alcool. Donc on a un rapport qui serait beaucoup plus réduit sur le binge drinking, plutôt que la recherche de la défense sur ces 2 heures-là, alors que l'alcoolisation ponctuelle importante est sur un temps plus incertain, c'est l'occasion. Donc l'occasion, c'est la soirée totale. Donc on comprend qu'on ne va pas être dans le même état si on a bu ces 6 unités de 19h à 5h du matin ou simplement l'espace de 2 heures.
On parlait de banalisation dans les précédentes émissions, surtout la première où on a introduit le sujet. On sait que c'est un âge aussi où on expérimente. Hein. Expérimenter, quand on a expérimenté, on n'est pas forcément consommateur à long terme. Moi, j'ai le cas de patients où ça a beaucoup consommé jeune et on se rend compte qu'il y a une entrée pour différentes raisons un peu psychopathologiques, des histoires de vie qui font que la personne s'installe avec, le produit s'installe. Mais est-ce qu'il y a une banalisation qui est faite ? C'est un produit où on peut être initié en famille, on ne peut pas faire une fête, quoi que ce soit, sans lever le verre, même si on s'en compte, on peut être vegan, on peut être végétarien, on l'accepte, mais accepter aussi qu'on peut avoir aussi des personnes dans son entourage qui ne boivent plus d'alcool et qui voudront une bière sans alcool. Mais est-ce que c'est peut-être trop banalisé ? Je veux dire, à un moment donné, on se rend compte avec France Addiction, par exemple, les publicités près des collèges, près des lycées, ça fait bondir certains addictologues.
Oui, tout à fait, parce qu'il y a toujours une pression de l'industrie alcoolière. Bah, encourage, hein, c'est leur intérêt économique d'encourager à la consommation, qui peuvent cibler ces populations. Aussi, c'est un petit peu le grand âme du secteur viticole, c'est que les jeunes, comme je le disais, ne boivent moins de vin. Donc, ils ont tendance à cibler, justement, pour essayer de reconquérir des parts de marché perdues par la baisse générale. Donc, effectivement, il peut y avoir des politiques agressives, marketing, qui peuvent se jouer à l'encontre des jeunes. Je rappelais qu'il y a toujours une pluralité. Je pense que c'est un petit peu, disons, nouveau, au moins en termes de visibilité. On voit davantage de jeunes qui peuvent revendiquer être abstinents, chose que je trouve qu'on n'avait pas forcément cette visibilité-là auparavant. Donc je pense qu'ils essayent en tout cas de normaliser leur comportement où ils ne boivent pas et finalement ils s'en portent tout aussi bien, qui leur permet justement de se dégager un petit peu par rapport à la pression du groupe selon laquelle finalement quand on est jeune c'est le boire pour boire qui serait dominant. Donc on a quand même une minorité qui peuvent être dans des comportements excessifs. Ce qu'il faut entendre aussi, c'est que les jeunes ne vont pas forcément être égaux au regard de à la fois de leur inscription sociale, au regard aussi de leur histoire familiale par rapport à l'alcool. Je pense que ça me paraît important de dresser une photo qui se veut un peu plus complexe. C'est pas seulement les jeunes qui consommeraient trop, qui seraient dangereux ou qui seraient en danger par rapport à l'alcool. Il y a quand même une minorité qui, effectivement, peuvent avoir un rapport problématique et malheureusement, il y aura une minorité qui vont développer des troubles addictos ou des pathologies liées à leur consommation. Mais il y a quand même une grande majorité, heureusement, qui, même s'ils vont passer sur des phases avec un rapport plus étroit à l'ivresse lorsqu'ils vont être jeunes, vont sortir par un processus qu'on pourrait dire naturel, mais qui est tout sauf naturel parce que ça va au contraire engager des processus sociaux qui vont sortir entre guillemets naturellement de ces comportements excessifs.
Et pour terminer notre cycle sur l'alcool, à terme de conclusion, je vous laisse la parole.
Moi, j'aimerais en tout cas, c'est un petit peu mon objectif dans ces recherches, peut-être essayer de dépasser un petit peu certains clivages où on aurait nécessairement quelque chose qui serait banalisé avec le discours plutôt porté par justement cette culture du vin par rapport à ces alcooliers où l'alcool ne serait qu'un produit culturel, un produit traditionnel. Et puis à l'opposé, on aurait le discours santé publique qui nous rappelle constamment les dangers, les risques, qu'ils soient cancérigènes, qu'ils soient addictogènes par rapport au produit. Moi, de mon point de vue sociologique, ce serait au contraire d'essayer de penser ces deux aspects-là, ces deux faces de la même pièce, dans le même rapport, où d'un côté, on ne peut plus banaliser. Aujourd'hui, je le rappelle, par rapport au changement des normes et aux repères de consommation, il n'y a plus de consommation banale. Tout produit, en tout cas tout alcool est toxique en lui-même. Mais en tout cas, d'essayer de réinscrire cette consommation, parce que quand bien même l'alcool est intoxique, c'est pas du glyphosate, c'est quelque chose qui est inscrit dans nos rapports sociaux, dans nos interactions sociales. Donc c'est essayer de penser comment ce produit toxique et addictogène s'inscrit dans nos manières et dans nos rapports sociaux, tout en construisant certaines identités sociales. Et je pense qu'il faudrait essayer de reconjuguer et de complexifier ce rapport-là en essayant de ne pas désincarner notre rapport à l'alcool en fonction de nos inscriptions sociales.
Merci beaucoup Nicolas Parlienne pour nos échanges, pour votre disponibilité.
À la semaine prochaine.
l'instant addicto.